j'avais très très peur que ça explose en fait. C'était une expérience pas très très agréable.
On a vu ces atrocités, mais on en a vu, ça a été de pire en pire quoi. Plus on investiguait, plus on se rendait à un endroit, plus on a vu des trucs pires.
Bonjour, je m'appelle Yves Pulici et les journalistes que vous venez d'entendre, ce sont Juan Palencia et Benoît Sarad. Avec Thomas Boutin, ils ont vu l'enfer en Ukraine. Une famille fauchée par un bombardement, les massacres des civils au départ des soldats russes. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Juan, salut Thomas, salut Benoît.
Salut Yves.
Salut Yves, ça va ?
Ça va bien et vous êtes où en ce moment ?
On est à la frontière ukraino-polonaise.
Là, vous rentrez en France, au moment où on enregistre ce podcast. Vous avez beaucoup de moments à nous raconter parce que vous étiez notamment à Boutcha. Mais on va reprendre depuis le début de votre mission. Vous avez rencontré Sergueï, un Ukrainien qui a perdu toute sa famille dans un bombardement.
Quand la guerre éclate, lui, il est dans le Donbass. Il est allé voir sa maman parce qu'il est originaire du Donbass. Donc, il a déjà fui une guerre. Sa maman est malade, il va lui rendre visite. Et le soir où ça éclate, il dit à sa femme de ne pas bouger, de rester avec leurs deux enfants parce qu'il voit que les routes de l'exil sont bondées, il ne connaît pas la situation, donc il leur demande de rester à Irpin. Et le 3 mars, son immeuble est pilonné. Et c'est à partir du 6 mars où il y a les chars dans la rue de Sergueï et de sa famille qui dit à sa famille « partez, partez ». Et là, il s'est passé quelque chose qui aurait jamais dû arriver si les règles de la guerre, je sais pas si on peut dire les règles de la guerre, mais si le respect des conventions internationales avait été respecté, on tire pas sur des civils surtout qui fuient. Human Rights Watch a documenté ça de manière précise. Ce jour-là, le 6 mars, l'armée russe a bombardé sciemment la route d'évacuation des habitants d'Irpin.
En une fraction de seconde, la guerre a tué toute la famille de Sergueï. Il ne lui reste aujourd'hui que quelques souvenirs, des vidéos, des photos qu'il regarde en boucle.
C'est ma fille Alice, elle faisait de la danse. Elle aimait dessiner, elle apprenait l'anglais. C'était une enfant de 9 ans, normale, joyeuse et talentueuse.
Nikita,
lui, il était en deuxième année à l'université. Il voulait devenir informaticien. Je peux pleurer, mais je ne le fais pas devant mes amis pour ne pas les attrister. Je pleure uniquement quand je suis seul. J'essaie de reprendre mes esprits, petit à petit.
Sergueï, vous l'avez rencontré grâce à Oksana Loita, c'est votre fixeuse, c'est elle votre traductrice, elle vous guide car elle connaît son pays et puis elle a des contacts.
Elle a réussi à trouver le numéro de Sergueï en 2 heures quoi. On lui parle de Sergueï, de sa famille, qu'on aimerait vraiment le rencontrer parce que son histoire qu'on a lue dans le document du Human Rights Watch nous a touchés, que nous on a vu ce qui se passait ce jour-là. On se dit, il faut absolument qu'on le rencontre, donc on en parle à Oksana, qui est très impliquée aussi parce que son peuple se fait tuer, et donc elle trouve le contact de Sergueï, et le lendemain, elle nous organise une rencontre avec Sergueï, qui ce jour-là va récupérer les actes de décès de sa femme et de ses deux enfants.
Il essaye de ne rien laisser paraître, mais en réalité, ce jour-là, derrière cette porte du tribunal de Kiev, il s'apprête à vivre l'un des pires moments de sa vie.
Ça, c'est celui de ma femme, Tatiana. Là, celui de ma fille de 9 ans, Alice. Et le troisième, c'est celui de mon fils de 18 ans, Nikita.
Sergueï apprend ce qui s'est passé sur Twitter lorsqu'il découvre une photo de la tragédie et des victimes allongées au sol. Il reconnaît alors les affaires de ses enfants.
Ça, c'est le sac à dos que ma fille portait le jour de sa mort. On peut voir les taches de sang. Et là, c'est celui de mon fils. Il y a des trous de mortier. À l'intérieur, il y a ses affaires. Elles sont criblées d'éclats de mortier.
Après votre rencontre avec Sergueï sur un autre tournage, vous tombez sur des cadavres, les premiers de votre mission. Ce jour-là encore, vous essayez d'aller à Irpin.
On cherche effectivement à se rendre à Irpin. Il y a un mur de bombes, impossible d'y rentrer. Aucun militaire ne veut nous accompagner. Il est interdit à la presse de s'y rendre. Donc on n'arrive pas à aller à Irpin. On y est depuis le matin, on n'y arrive pas. Et là, on apprend qu'il y a une route qui vient d'être libérée par l'armée ukrainienne, qui est la route en direction de Jytomyr, donc qui est la route qu'empruntent les habitants de Kiev pour se rendre à l'ouest de l'Ukraine. Et donc là, okay. Thomas Boutin, on s'approche de cette route, on arrive au dernier checkpoint, et un des hommes de la défense territoriale nous dit « Ok, vous pouvez continuer ». Sauf que la route devant, elle est minée et c'est très dangereux. Et là, Thomas est au volant.
Ça ressemble à quoi une route minée ?
En fait, ça ressemble à rien parce que tu les vois pas. Je me retrouve à démarrer avec un militaire à côté de moi qui est censé me montrer l'emplacement des mines. Sauf que il parle en ukrainien, que tout ce qu'il dit est traduit par la fixeuse et que du coup il y a une latence toujours de quelques secondes entre ce qu'il dit. Je roule à 10 km/h, c'est un peu compliqué, on transpire un peu, mais tout se passe bien. Et ce qu'il dit en gros c'est il faut que tu fasses attention à tout ce qui peut ressembler à une petite motte de terre, à un débris ou à quelque chose qui pourrait laisser penser qu'on a enterré un truc sur la route ou quelque chose comme ça. Le seul problème, c'est que tu arrives sur des routes où il y a eu des combats depuis 2 semaines ou 3 semaines et en fait, il y a des mottes de terre partout, il y a des débris partout. Et donc, en fait, tu sais pas trop où aller.
On constate effectivement tous ces cadavres un peu qui restaient encore sur la route carrément, des voitures brûlées, des anciens. Il y avait au tout début une sorte de trou dans la terre avec quelques matelas, quelques tapis de sol. Et quelqu'un nous explique qu'en fait, c'était un char qui était posté dessus, ça s'appelait les foxholes, les trous du renard en gros, et c'est là où le militaire s'abritait sous le char en cas de bombardement d'artillerie, hein. Comme ça rase les sols, donc il se protège en dessous. On voit tout ça, et là, au loin, on voit débarquer une caméra vidéo, une caméra photo, un reporter, et à peu près 7 militaires derrière eux, et un gars de la sécurité. On est tombé sur CNN.
Là, quand on voit les gars de CNN débouler, on se rend compte du dispositif qui est mis en place par les équipes de télé américaine. Alors, on a tous été sur d'autres terrains et on l'a vu. Là, ils déboulent, ils ont des producteurs, ils ont des gardes-corps qui sont d'anciens militaires. Nous, on est 3 pecnos dans la pampa, plus Oksana. Souvent, quand on fait la promo de BFM, on dit qu'on est le French CNN. Et là, en rentrant à l'hôtel, Oksana, elle nous fait « Non, vous êtes français, mais vous n'êtes pas le French CNN, pas CNN, par rapport aux moyens développés. Il y a toi, Juan et Thomas, et c'est tout. » Et elle se marre.
Il y a un peu plus d'une semaine, on découvre tous les images de Boutcha, cette ville martyre près de Kiev. On retrouve donc des centaines de morts dans cette ville, libérée tout juste des Russes. Et vous décidez d'y aller.
Alors, il faut savoir que ce jour-là, il y avait un couvre-feu qui interdisait à la presse de s'y rendre. On n'avait pas le droit d'y aller. À la presse et à tout le monde, enfin, aux gens aussi, quoi. C'était...
Ils déminaient,
en fait, les lieux. Et là, en gros, on est allé à Boutcha grâce aux mauvais onglets des Benoît, puisque on avait... Non, mais c'est vrai, on était censé aller à un endroit avec un militaire. On savait pas trop où non plus. On calait ça un peu au jour le jour. Et donc, le gars lui dit un truc du style, vous êtes à tel endroit, vous pouvez être dans combien de temps ? Il a compris, il faut être au plus vite à cet endroit. Il a compris ça, je ne sais pas comment. On s'y rend. Il se trouve que c'était la route vers Boutcha. Benoît appelle le militaire qui lui dit, en fait, on s'est mal compris. Je ne vais pas vous assurer pouvoir y être là maintenant dans l'heure, même dans les 3 heures qui arrivent. Donc, bon courage, les gars. On décide de rouler un peu sur un chemin. Progressivement, on avance. C'était vraiment de la scène. Disons que c'était, on arrivait vers l'apocalypse progressivement, en fait. On voyait d'abord un char, une carcasse de char brûlé, des vieux qui regardaient ébahis comme ça les chars au coin de leur rue, quoi, vraiment. Donc on se dit, il faut faire une image ici. On descend de la voiture, je fais 3 images, et là, on voit un convoi arriver. On sait pas, une sorte de délégation officielle avec des ambulances, on imaginait des humanitaires, juste comme ça. Et là, on se regarde avec Thomas et Benoît, on se dit, on fait quoi ? On s'insère. Et là, Thomas subtilement s'insère dans le convoi. On met les warnings et on rentre dans Boutcha grâce à ce convoi.
Et donc là, on arrive à Boutcha et on constate la fin du monde directement. On arrive dans une rue qui a été l'objet d'intenses combats que tes auditeurs ont dû découvrir sur nos images. On se rend compte de la violence des combats. On interroge une personne à un moment et elle fait des signes de la main à Juan. Elle ne comprend pas et en fait, ensuite, la traductrice lui explique qu'il y a une main derrière lui, une main de soldat russe, dans son jardin. Ensuite, on se balade dans une rue, on voit des véhicules, mais des véhicules écrabouillés, écrasés par des chars. Et à l'intérieur, il y a toujours les corps avec la clé sur le contact.
Sur les images de Thomas Boutin, vous découvrez un véhicule écrasé. Selon un député que nous avons rencontré, ce véhicule aurait été écrasé par l'armée russe. Au sol, vous pouvez voir des douilles. Cette rue a été l'objet d'intenses combats pour la libération de Boutcha. Et derrière moi, vous allez découvrir un autre véhicule, lui aussi écrasé. À l'intérieur, j'y ai un corps que nous n'allons pas vous montrer.
En fait, on arrive dans Boutcha, il faut juste imaginer l'odeur, ça sentait le métal un peu rouillé, ça sentait un peu le mort. En fait, on entendait dans Boutcha que les corbeaux. C'était assez frappant parce qu'on entendait que ça, il n'y avait pas de vie, il y avait des corbeaux, des odeurs particulières. De la rouille. À ce moment-là, c'était pas totalement déminé et on était en train de tourner. Il y a une dizaine, centaine de mètres, on sait pas exactement, mais il y a beaucoup d'écho. Hein. On entend une mine exploser sans doute, c'est peut-être des mineurs, on sait pas trop, mais c'était pas trop loin. Donc ça montre aussi que là où on marchait, par exemple, le militaire marchait dessus aussi, il nous disait suivez les chemins comme ça, ne touchez à rien, ne prenez rien de ce qui traîne par terre, marchez vraiment là où vous voyez ce qu'il y a, quoi.
Et au final, on a suivi des démineurs qui rentrent dans le sous-sol d'un centre pour enfants et qui nous disent qu'il y a des corps dans ce sous-sol, plusieurs corps d'hommes ligotés. Au départ, ils veulent pas qu'on les suive, puis finalement, grâce à Oksana, on y arrive. Et donc, ils rentrent une première fois dans le sous-sol avec leurs appareils pour vérifier que les corps sont pas minés, parce qu'il y a cette grande crainte que les soldats russes leur ont laissé, comme ils disent, des cadeaux, donc des corps minés. Donc, ils vérifient sur chaque corps qu'il n'y a pas une mine. Les membres de la police, les démineurs, vérifient d'abord. Ça dure trois quarts d'heure. Et là, ils disent à Juan que c'est bon, ils peuvent venir. Alors, ils veulent juste une personne pour pouvoir surveiller ses pas. Mais Juan ne parle pas ukrainien. Et donc, on demande à Oksana d'accompagner Juan pour qu'il comprenne la situation et que les démineurs puissent lui expliquer. Et Oksana, pareil, elle n'hésite pas. Elle l'accompagne dans un endroit compliqué. On est dans un sous-sol où il y a cinq corps.
J'avais très, très peur de que ça explose en fait. C'était une expérience pas très très agréable. Et puis une fois dedans, on serait saisi et on est là pour documenter tout ça. Et je suis obligé. Alors c'était un peu gore, hein. Ce qu'on fait, c'est vraiment un travail particulier. Sur ces corps, il y avait des gens qui avaient les mains ligotées, des bandeaux blancs sur le bras, des marques de torture, ils avaient été fusillés. Donc tout ça, même si on ne le diffuse pas parce que c'est trop dur, il faut le documenter, il faut le savoir, il faut s'en assurer. Si on dit que quelqu'un a été fusillé, il faut savoir comment, pourquoi on dit ça. Donc il faut le filmer. C'est là où il faut vraiment prendre sur soi pour pouvoir aller chercher ces choses-là. Heureusement que la caméra est là pour mettre une sorte de mur, de barrière un peu. L'écran de la caméra, ça protège en quelque sorte. Mais oui, effectivement, c'était une scène assez compliquée. Mais c'était la première parmi beaucoup d'autres.
Et donc ensuite, on récupère aussi les noms de ces personnes pour s'assurer que ce ne sont pas des militaires. Et on récupère les noms et ce sont tous des civils. Et donc là, actuellement, on est en train de travailler pour rencontrer leur famille, avoir le détail de quand est-ce qu'ils ont disparu, savoir ce qui s'est passé tout bêtement.
Je vous propose qu'on termine avec cette séquence qui est hallucinante et que vous avez partagée sur Twitter. Juan, tu as dansé la salsa à Boutcha.
Tout s'était enchaîné, les journées étaient très denses. On avait été dans cette cave avec les hommes fusillés. On sort, on fait tous les habitants, la détresse, enfin ça, on va sans doute le porter sur nous. Mais là, en tout cas, en l'occurrence, on sort, il fallait que je respire un peu. On tourne dans la cave et je sors, prends l'air et là, je tombe sur Svetlana. Elle me regarde comme ça et me demande, mais et je comprends pas. Hein. Oksana était en bas avec Benoît et Thomas et moi, j'étais tout seul là-haut. Je comprends un peu, on se parle avec les yeux un peu comme ça. Et elle me dit, Fanchuski, non. En gros, tu ressembles pas à un Français, quoi. J'ai compris ça. Il va, je suis colombien. Enfin, je suis franco-colombien, mais lui, va colombien. Ah, Colombia.
salsa. Et forcément, enfin, on comprend. Il dit, ah bah bien sûr, tu veux danser? Et en fait, on danse deux fois. La première fois, j'étais seul. Et on dansait. Je lui tends la main comme ça. Et son regard a changé. Déjà, elle était bienveillante. Là, elle était quasiment heureuse, quoi. Enfin, on reconnaît ce truc-là. Elle sourit comme ça, limite les larmes aux yeux. Je lui tends la main. Elle me prend la main comme ça. Son mari était à côté, hein. Lui aussi était heureux de voir ça parce que je pense que c'est des scènes qu'ils avaient oubliées. Mais je lui tends la main et il vient vers moi et on danse la salsa au milieu d'une cour.
En gilet pare-balles.
En gilet pare-balles. Alors c'était limite ridicule. Je suis en gilet pare-balles et casque. Elle est en bonnet et quasiment en chaussons, quoi. C'est vraiment surréaliste, quoi. Et on danse une première fois.
Et du coup.
Et à ce moment-là, et je regarde ses yeux et elle est en train de pleurer de joie. C'était assez fort.
Et là, Benoît, tu filmes cette scène.
Ouais, c'est ça. C'est que je me dis que je vis un moment incroyable et j'ai beaucoup d'affection pour Juan et je me dis que tous ces moments-là, ben, faut les garder. Et que j'ai un peu ce réflexe aussi avec mes filles. Du coup, il y a un moment heureux dans cette journée. Il y a la rencontre de Timofey puis il y a cette danse. Et je me suis dit que. Bah, quand il le regardera, quand il aura des cheveux blancs... il a déjà des cheveux blancs. Il en a déjà beaucoup.
À cause de Benoît Sarah, donc grande partie.
Bah, il sera content de la voir. Et puis, on a gardé leur contact. Et on va leur envoyer la vidéo quand ils auront du réseau, en fait. Parce que c'est ça aussi un tout petit peu le problème. Donc...
Juste pour finir sur ça, j'ai l'impression que tout le monde pense qu'on est traumatisé par ça. Enfin, c'est vraiment quand même très compliqué, des scènes... d'une cruauté assez inouïe et en fait effectivement on va les porter. Il faut aussi savoir que on va aussi ramener des moments comme ça qui sont des moments d'exception, quoi. C'est vraiment des moments qui parfois valent plus que tout ce qu'on peut voir, toutes les atrocités qu'on peut voir. C'est des moments qui vont rester aussi dans notre tête, et parce qu'on sait que ce qu'on fait est important, que ça peut nous marquer, mais on ramène dans notre besace aussi ces genres de moments qui sont très très importants. Non, on n'est pas traumatisé.
Oui, et puis surtout, on voit que le peuple ukrainien est très, très, très courageux. Et donc, devant eux, parce qu'on a vu ces atrocités, mais on en a vu, ça a été de pire en pire, quoi. Plus on investiguait, plus on se rendait dans un endroit, plus on a vu des trucs pires. Mais on a toujours vu ces Ukrainiens dignes, courageux. Et donc, devant ça, on peut pas juste baisser les yeux et rentrer et se dire « c'est trop dur ». Non, faut y aller, t'es là, mec. C'est ton job, c'est ton rôle, quoi.
Là, vous êtes donc sur la route pour rentrer en France. C'est la fin de votre mission. Vous savez ce que vous allez faire ces prochains jours, ces prochaines semaines? Est-ce que vous allez vous reposer?
Oui et non. Donc, on prépare un documentaire sur les crimes de guerre. Donc, on va continuer à travailler sur ça. Et ensuite, on va préparer la prochaine mission. Non. Oui, on va se reposer, évidemment. On va se reposer.
Alors oui, là, je viens d'apprendre que je reviens. J'étais pas au courant, mais... Vraiment, il est temps de prendre soin un peu de soi aussi, des proches, parce que quand on part, nous on est là-dedans et un truc qui nous porte un peu, et on a tendance un peu à oublier tous ceux qui restent derrière nous, nos familles, nos amis qui pensent qu'on a un syndrome post-traumatique à vie maintenant.
Enfin, ouais, c'est bon, ça va, ils sont tranquilles à part.
Et c'est aussi une course d'endurance un peu. Si on ne sait pas se reposer, c'est pas un marathon qu'on fait en fait, c'est vraiment un truc qui va durer dans le temps.
Ah ben, c'est un marathon.
Il sort quand le documentaire?
Le long est prévu pour le 9 mai, si je dis pas de bêtises. Du coup, il y a une autre équipe là qui est partie, Jérémy Normand et Jérémy Muller, qu'on a croisés, on leur a tapé dans la main avant, et qui vont continuer à travailler sur le doc des crimes de guerre.
On va essayer de les avoir aussi dans ce podcast. Oh, très bien.
Merci, à bientôt.
Salut, ciao, bonne soirée.
Ciao.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un nouveau podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.